Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont derrière l'écran et bonjour à tous ceux qui sont ici. Soyez tous bénis, soyez tous aimés. Ce message d'aujourd'hui, j'ai déjà utilisé un certain nombre de mouchoirs ce matin. Merci Donata de me faire pleurer. Ce message, ça fait un certain temps qu'il est en gestation dans mon ventre. Il a commencé par un cadeau de mon fils Luc, d'un auteur que j'aime énormément parce que c'est un professeur d'hébreu à Lausanne, Thérèse Glardon, qui a fait tout un commentaire sur le fameux livre « Le Cantique des Cantiques ». Seulement, elle l'a abordé d'une manière très particulière que je n'avais encore jamais vraiment vue, jamais vraiment réfléchie. Et puis, ce matin, quand on prépare un message, on se dit toujours « Est-ce que c'est toi qui veux parler, Dieu ? Ou est-ce que c'est moi qui ai envie de donner le message ?» Et là est toute la différence. Et moi, je suis réveillée très tôt le matin. La radio diffuse la musique classique dirigée vers la Sainte Trinité. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la Sainte Trinité, une chose que j'ignorais totalement. Et j'ai reçu d'une cousine du Congo ce matin, attendez voir que je vous le sorte, un message qui dit « Seigneur, fais de nos familles et de nos relations des miroirs de la Sainte Trinité. » Et c'est exactement ce dont je vais parler. Mais ça, au Congo, ils ne le savent pas. Mais Dieu le sait. Donc j'ai reçu aussi, dans le cadre de cette gestation, beaucoup de confirmations au travers des différents messages qu'on a reçus par rapport à l'Apocalypse. Mais oui, l'Apocalypse est reliée au Cantique des Cantiques. Ces deux livres parcourent toute la Bible. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et également au travers du dernier message de notre pasteur Thierry par rapport au retour du Christ. Donc, je viens vers vous, non pas avec mon message, mais avec le message de Dieu. Et j'ose le dire. Ensuite, j'aimerais juste une petite précision. Il y aura beaucoup de passages bibliques qui seront nommés, mais ceux qui apparaîtront par la gloire de Dieu sur l'écran, la plupart sont tirés, non pas d'une version, mais de la traduction littérale hébraïque, parce que c'est plus fort. Voilà. Alors, le Cantique des Cantiques nous montre, et ça, la plupart d'entre nous, nous le savons, la relation avec Dieu, la relation verticale, la relation qui va de la terre au ciel et du ciel à la terre. Mais il y a aussi la relation horizontale. Dans le couple, ça semble le plus évident, bien sûr, mais aussi de manière beaucoup plus élargie, on peut le transposer entre amis, entre collègues, dans la famille élargie, entre membres d'une même confrérie ou entre frères et sœurs en Christ. Une relation, qu'elle soit entre Dieu et nous ou entre notre conjoint, entre les amis et tous les autres, suit souvent le même schéma que nous avons dans le Cantique des Cantiques. Il y a la rencontre. Très vite, elle est fusionnelle, à la vie, à la mort. Et puis, petit à petit, un refroidissement qui peut être dû à l'éloignement, à un changement dans nos vies, à l'habitude. Et si nous ne sommes pas attentifs, nous ne pouvons revenir à cette relation de base qui était merveilleuse. Alors, pensons toujours à cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu et avec notre conjoint ou avec tous les autres. La relation, elle peut aussi vivre une cassure, et on en vit une dans le Cantique des Cantiques, même plusieurs. Parce que de l'amour fusionnel à la vie, à la mort, c'est la haine, le silence, les mésententes, les incompréhensions, des attentes non remplies. Par exemple, on est tout feu tout flamme pour Dieu, mais on a un gros problème, alors on le lui soumet. Ça dure une année, deux années, trois années, et toujours pas de réponse. Et notre cœur se refroidit. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu m'entend? Alors, on va déjà commencer par la relation originelle que Dieu a désirée. Celle de la base, pas celle qu'on nous dit, celle que Dieu a voulu de toute éternité en créant l'humanité. Parce que, pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que déjà, le commentaire en parle aussi, mais aussi parce que dans les temps qui courent, le plan originel de Dieu, il est complètement détourné. Les films, les publicités, les séries, on mélange tout. Le sexe, les genres, tout. Et si on ne fait pas attention, je me suis dit que peut-être un jour, si j'aurais eu des enfants petits à cette époque, ils auraient pu nous poser la question, est-ce que je suis une fille ou un garçon? Est-ce que je peux être les deux? Est-ce que je peux changer de sexe? Parce qu'on ne voit que ça. On n'entend que ça. Mais ce n'est pas dans le plan originel de la création divine. Notre compréhension des relations entre Dieu et les hommes, entre les hommes et les hommes, les femmes et les hommes et les femmes, doit devenir notre quotidien en ayant une idée de ce que Dieu avait à la base. Parce que Dieu a toujours soupiré à ce que l'humanité tout entière vive la même relation parfaite que Dieu lui-même entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce que notre président a encore rappelé ce matin. Et nous avons aussi reçu une fois un message de Quichotan qui nous parlait de cette relation à trois extraordinaire, similaire à la salle à Vienne quand il danse la valse à trois temps. Mais Satan, il a mis son grain de sel. Alors tout a changé, toutes ces relations ont changé. Alors j'aimerais que nous fassions un petit regard sur la base. Ce n'est pas encore moi, les textes. Hein. Dans le premier texte de la création en Genèse 1:26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » En Genèse 1:27, il est encore dit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » En Genèse 5:2, qui parle de la descendance d'Adam, nous lisons « Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. » Donc, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. En hébreu, il n'est pas parlé d'un homme et d'une femme dans Genèse 1, 2 et 5. Le mot exact est « ha-adam » qui a été traduit par « monsieur Adam » mais par le genre humain. « Ha-adam » c'est le genre humain. Madame Ève, elle n'est pas construite ou créée à partir d'une côte d'un monsieur Adam comme l'ont traduit la plupart des Bibles. Là, je vous casse bien des créneaux, hein. Le sens initial est tselha, qui indique homme et femme sont les deux côtés du genre humain. Ce n'est pas un ordre hiérarchique, ils sont côte à côte. Ce qui signifie plus largement que l'être humain est appelé à vivre une relation qui respecte la liberté et l'autonomie de chacun dans le cadre d'une altérité, donc dans le cadre de leur différence et dans le cadre du partenariat. Le texte initial hébreu dit que l'homme est un côté de l'être humain et la femme l'autre côté de l'être humain. Donc, homme et femme, nous sommes les deux faces du genre humain. Il y a une, ce que j'ai entendu dans mon enfance, une sorte de légende israélite qui dit quand l'être humain a été créé, l'homme était collé par le dos à la femme. Donc, ils étaient collés dos à dos, comme des enfants siamois. Et puis, ils ne pouvaient pas se voir. Ils savaient que l'autre était là, mais ils ne pouvaient pas se voir, parce qu'il fallait se retourner en arrière, ils ne pouvaient pas. Alors, Dieu est venu, et il a coupé en deux, et ils ont pu se voir. C'est ça, la création. Identique, dans leurs différences. Premier texte où Paul parle en 1 Corinthiens 11, 11. Dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Alors partout où il y a le genre humain, comme par exemple dans l'Église homme et femme, nous avons à devenir acteurs et actrices pour le royaume, selon ce que Dieu désire, selon les dons qu'il nous a donnés. Et il n'y a pas une question de supériorité ou d'infériorité ou de Dieu sait tout quoi. Si nous désirons ressembler, et j'insiste un peu beaucoup, à la création de l'homme selon Dieu, nous devons vivre en relation et en complémentarité. Et ça, c'est absolument indispensable. Alors, je nous pose la question, quelles sont nos relations avec les autres? Est-ce qu'on vit en complémentarité les uns avec les autres, selon nos dons? C'est très important parce qu'on voit cette complémentarité et ces relations dans le Cantique des Cantiques, où il y a un respect réciproque entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de « je suis le chef, tu m'es inférieur, je ne veux pas t'obéir », etc., etc. Rien de tout ça. Le Cantique des Cantiques ne parle pas seulement d'une histoire d'amour entre un homme et une femme, il parle des relations en général et aussi de l'union de Jésus avec son Église, dans l'altérité et la complémentarité. Dieu nous désire complémentaires avec lui, et ça, c'est très important à le réaliser. Alors on va faire une petite visite quand même dans ce Cantique des Cantiques, qui effectivement est un chant d'amour joyeux, qui parle de manière extraordinaire de la beauté, de la force, de l'aspect charnel dans un couple. Mais il retrace aussi les élans, les absences, les désespoirs, les retrouvailles qu'un couple ou que n'importe quelle relation pourrait vivre. Et tous ces aspects nous renvoient au secret de l'amour divin. Le Cantique des Cantiques est donc un dialogue entre deux personnes, et ces deux personnes, ça peut être Dieu et moi, Dieu et toi, Dieu et nous. Pourquoi le Cantique des Cantiques se trouve dans le canon de la Bible? On pourrait se poser la question. C'est quand même une histoire d'amour, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Historiquement, on aurait pu le nier et ne pas le mettre, mais les hommes ont été obligés de le mettre dans le canon de la Bible parce qu'il se trouvait aussi dans les écrits de la Mère Morte, donc ils ne pouvaient pas ne pas le mettre. Un rabbin bien connu, Rabbi Akiba, qui est décédé dans les 135 après Jésus-Christ, a déclaré que ce livre était le plus nécessaire dans les Écritures. Pour lui, si le Cantique des Cantiques est seulement utilisé comme un chant d'amour, on se prive du plus important parce qu'on n'aurait pas part au royaume à venir. On n'a pas part au royaume à venir si on n'entre pas dans les relations selon le Cantique des Cantiques. Donc le Cantique des Cantiques nous permet d'avoir une part au royaume. Moi, je trouve ça tellement impressionnant. Dans nos vies de chrétiens, souvent, nous vivons seulement dans le parvis. Et parfois, certains vont un petit peu plus loin et ils arrivent dans le lieu saint. Or, si le Cantique des Cantiques s'appelle le Cantique des Cantiques, deux fois le même mot, ça veut dire qu'il se rapporte au Saint des Saints, deux fois le même mot. Donc, avec le Cantique, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, faire un pas un peu plus loin et arriver à l'amour spirituel, à l'amour de Dieu, avec des mots d'amour humain que nous pouvons chuchoter dans l'amour divin. Le Cantique des Cantiques nous renvoie à l'amour spirituel. Et c'est l'amour de Dieu pour son peuple, les Hébreux au départ, pour Israël, et l'amour de Christ pour l'Église. Cette révélation nous est donnée dans le Nouveau Testament avec l'apôtre Paul, qui affirme que l'union conjugale reflète le mystère de l'amour entre Christ et l'Église. C'est aussi marqué dans les Évangiles ou l'Apocalypse, où Jésus est présenté à plusieurs reprises comme l'époux au festin des noces. Et spirituellement, le Cantique des Cantiques nous amène à traverser la Bible à plein d'endroits. Et je vais vous en donner un ou deux. Je vais vous parler des versets 1 à 4 du chapitre 1. Vous voyez, je ne vais pas très loin. Il y a 8 chapitres. Où on va parler de trois choses. Le vin, le parfum et l'attirance. Le vin, c'est une femme qui introduit le début du dialogue. Alors on peut le mettre. C'est le cantique. Chapitre 1, les versets 2, 3. Qu'il me couvre de ses baisers, car tes caresses, tes étreintes sont meilleures que le vin, et meilleures que la senteur de tes parfums. Ton nom, ta personne, est un parfum raffiné qui se répand. Étreinte, vin et parfum nous introduisent dans le monde du divin. Dans le Nouveau Testament, l'irruption du royaume s'accompagne de signes. Et le premier signe, c'est le premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin. Le vin est le signe du sang de Jésus qui nous lave de tous les péchés. La première manifestation de l'Esprit Saint sur les disciples a fait croire qu'ils étaient enivrés de vin doux. Et dans le psaume 23, nous pouvons lire, c'est le troisième texte, 23:5, « Face à mes adversaires, tu apprêtes pour moi une table. Ma coupe de vin déborde, et d'une onction de fête, tu me parfumes la tête. » Vin et parfum. Après le vin, c'est le parfum. Le parfum d'une personne la caractérise. Avant la pandémie, on pouvait s'embrasser à joue que veux-tu. Et j'aimais beaucoup sentir les parfums des uns et des autres. Je me rappelle le nombre de fois où j'ai dit à Céline, mais qu'est-ce que tu sens bon. C'est pas vrai?
C'est vrai.
Avoir une tête parfumée de l'amour divin, c'est être une bonne odeur qui monte vers Dieu. Pendant près d'une année, à cause du Covid, que je me suis aussi offerte comme d'autres, j'ai perdu l'odorat. Il commence à revenir, hein, j'ai eu le Covid en avril 2020. Et croyez-moi, c'est un réel handicap. Retrouver les odeurs et surtout les bons parfums, c'est un réel bonheur. Dans l'Ancien Testament, l'huile parfumée, elle entrait dans la composition de l'huile d'onction. On mettait l'huile sur les gens, les rois, les prophètes, qu'on oignait. Et on le voit dans le psaume 45 ou dans Hébreux 1:1, où l'époux royal est oint d'une huile de joie. Et c'est une comparaison avec Jésus. Jésus sur lequel repose l'esprit en plénitude. Selon, je vous le rappelle juste, c'est dit selon Ésaïe 61:1, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Vous pouvez me dire la suite? Parce que l'Éternel m'a consacré par onction, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Si nous sommes loin de ce parfum, nous pouvons faire tout cela. C'est génial! Alors, je vous pose la question, est-ce que nous sommes de bonne odeur à Dieu? À la maison, au travail, à l'église, à la Migros? Parce que si on laisse cette trace de bonne odeur, cette trace du divin, à chaque endroit où on se trouve, c'est qu'on interpelle autour de nous. On interpelle les gens. Après le vin et l'huile, jetons un coup d'œil vers l'attirance. C'est le texte numéro 4. Nous sommes dans le Cantique des Cantiques, le verset 4 du chapitre 1. Attire-moi à toi, entraîne-moi après toi, et nous courrons. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Tu seras notre allégresse et notre joie. Nous célébrerons ton amour plus que le vin, et c'est avec raison que l'on t'aime. Moi, j'ai été très interpellée dans ce passage par le notre, le nous, le on. Tu seras notre allégresse et notre joie. Nous célébrons ton amour, et c'est avec raison que l'on t'aime. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous trois, se réjouissent de notre présence auprès d'eux. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Par notre conversion, nous sommes accueillis, célébrés, aimés. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de sentir cet amour divin ? Attirer, entraîner. Au niveau du vocabulaire, lorsque nous mentionnons le Messie, Yeshua HaMashiach, la racine hébraïque de HaMashiach signifie attirer. Ce verbe attirer exprime la seule façon dont Dieu a essayé de sauver son peuple tout le long de l'histoire. Et on le voit très fortement dans le livre d'Osée. Et là, on arrive au cinquième message, cinquième parole. Dans Osée 11, le verset 4, « Je les ai tirés, je les ai attirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche et je leur ai présenté de la nourriture. » Je vous invite à lire tout le livre d'Osée. Ce livre où Dieu, au travers d'une parabole, parle à chacun d'entre nous personnellement. Nous y découvrons d'une façon très imagée nos trahisons répétées, nos oui, nos non, nos peut-être, et comme celle du peuple avec les réponses de Dieu à toutes ces tergiversations. Heureusement pour nous, Dieu nous rappelle aussi dans Osée, au chapitre 14, au verset 5, combien il nous aime. Et c'est le passage numéro 6, Osée 14, 5. « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Dieu va réparer nos infidélités. C'est bon, non? Et nous lisons, ça c'est le passage suivant, dans Jean 12, 32, voyez comme tout est relié. Jésus dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes, tout le genre humain, à moi. » C'est un rappel de l'ascension que nous avons vécu il n'y a pas longtemps. Alors je pense qu'il faut nous laisser attirer, nous ouvrir à cet amour de Dieu qui nous aime si complètement, si parfaitement, et nous ouvrir à cet amour qui rime avec toujours. Et c'est aussi à nous de vivre la même chose dans les relations similaires avec tous nos entourages. Un peu plus loin, dans le Cantique des Cantiques, après des amours éclatantes, nous arrivons à ce qui pourrait sembler un retour en arrière. C'est pour ça que je vous ai dit que ça ressemble quand même à nos relations. Auparavant, c'était la fête, l'ivresse, l'union, l'amour fort. Puis là, on arrive dans une sorte de, comment dirais-je, de retour en arrière. La relation semble vouloir disparaître. Le couple ne se retrouve plus. Et ça nous arrive effectivement aussi avec Dieu de nous refroidir. Que ce soit dans nos amours aussi charnels ou nos amours amitiés, comme dans notre amour avec Dieu, on peut être tout feu, tout flamme, puis trois jours plus tard, on peut être tout froid, plus bouillant, plus chaud. Mais quand même, dans le Cantique des Cantiques, arrive un autre chapitre que j'aimerais vous transmettre. C'est dans le chapitre 5 au verset 2, « Même en plein sommeil, mon cœur veille. » Donc même si Dieu est en plein sommeil, son cœur veille. Et même si notre cœur, notre amour est en plein sommeil, Dieu fera en sorte, si on le laisse faire, que notre cœur veille. Il y a plusieurs et de nombreux passages dans la Bible où il est parlé de rester éveillé. Il y a par exemple dans Luc 9, 32, où Jésus a été transfiguré. Les disciples ont assisté à cette transfiguration et il est dit que malgré leur épuisement, ils sont restés éveillés. Et c'est ce qui leur a permis de voir la transfiguration de Jésus. Par contre, dans un autre passage, toujours dans Luc, Luc 22, les versets 40 et suivants, Jésus est à Gethsémané. Il fait la prière la plus forte de toute sa vie sur la terre et il demande à ses disciples de prier pour ne pas céder à la tentation. Et là aussi, les disciples sont accablés de sommeil. Mais cette fois, ils n'ont pas pu rester réveillés. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que Jésus devait être seul? On ne sait pas. Mais après avoir prié, Jésus rejoint ses disciples et leur dit « Mais pourquoi dormez-vous? Levez-vous si vous ne voulez pas céder à la tentation. » Dans le Cantique des Cantiques, même lorsque la relation de la bien-aimée est en sommeil, son cœur reste réveillé. Et le fait de rester éveillé lui a permis de percevoir la voix de son bien-aimé qui frappe à la porte. Le bien-aimé, lorsqu'il frappe à la porte, dans ce passage-là, est couvert de rosée, ce qui a une valeur biblique symbolique. La rosée, elle descend du ciel, c'est un peu comme la manne. C'est un gage de bénédiction, de vie à jamais. Il y a beaucoup de passages qui nous le signalent, comme Ésaïe 45:8 ou Psaume 133:3. Malheureusement, la bien-aimée, bien que réveillée, trouve des excuses. Mais vraiment, les commentaires disent que ce sont des excuses bidons, parce qu'elle devrait remettre sa robe. Ça l'embête. Elle vient de laver ses pieds, elle ne veut pas les salir. Et moi, ça me ramène à l'invitation au repas des noces. Ah, je ne peux pas venir, j'ai un bœuf à venir examiner, je ne peux pas venir parce que j'ai acheté un terrain, il faut que j'aille le voir. Etc., etc. C'est exactement le même parallèle. Comment interpréter ce passage? Comment parler de ce passage? Mais c'est l'essence de notre fermeture à Dieu. Dans certaines circonstances, on n'arrive plus ou on n'arrive pas à nous ouvrir à cet amour de Dieu. Et souvent, on trouve plein d'excuses. Je suis fatiguée, j'ai trop de travail, tu ne réponds pas à mes demandes, etc., etc., alors que quand Dieu envoie sa parole, celle-ci déclenche des événements. Les cieux, la terre sont convoqués. Les situations bougent. Les humains se mettent à agir. Et ici, nous avons un impératif. Il est dit « Ouvre-moi ». C'est un appel qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse 3, le verset 20. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte ». C'est le cri de Jésus pour guérir le sourd muet en Marc 7, les versets 34 à 35, où les oreilles s'ouvrent et où la langue se délie. Le bien-aimé appelle sa bien-aimée « Ouvre-moi », ce qui signifie « N'ouvre pas à n'importe qui, mais à moi ». Et c'est aussi le cri de Dieu pour nous. « Ouvre-moi, pas à n'importe qui, à moi, ton Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ». Alors, ouvrons cette porte. Et posons-nous aussi la question, est-ce qu'on est endormi ou est-ce qu'on est réveillé? Heureusement, le cœur de la bien-aimée va rester vigilant et même si elle a pu complètement ouvrir la porte au départ, je vous laisse lire la suite. Et vous verrez les va-et-vient, comme elle va courir derrière lui parce que lui va se cacher, etc. Mais finalement, ils vont se retrouver. Et cette vigilance nous rappelle aussi les vierges sages et les vierges folles. Ou aussi dans Luc 12, les versets 36 à 40, où les ouvriers qui attendent le maître à son retour de noces. Et les serviteurs sont heureux parce que lorsque le maître est rentré, il les a trouvés éveillés. Et c'est la conclusion de ce célèbre passage qui dit, et ça c'est le dernier passage que je vais vous montrer, « Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure ou vous n'y penserez pas. Donc, il est important de rester vigilant. Maintenant, avec tout ce que je vous ai apporté, comme conclusion, je fais juste un petit rappel des points, parce que ça fait beaucoup. Le plan initial de Dieu, si nous désirons ressembler à la création selon le projet initial de Dieu, l'homme et la femme devraient vivre en relation et en complémentarité. Point 2, être attiré par Jésus. Dans nos vies de chrétiens, ne restons pas limités au parvis. Entrons dans le sein des saints ou même dans le lieu très saint. C'est dans une vie de foi, d'amour, de prière, d'engagement qu'on peut y arriver. Alors laissons-nous attirer par Jésus. Osons vivre cette vie avec lui, parce que Jésus, lui, ne nous lâchera jamais la main. Et ça, il faut en être convaincu, puisqu'il nous aime jusqu'à donner sa vie. Point 3, la vigilance. N'oublions pas de rester vigilants. Ne nous laissons pas happer par le brouhaha du monde. Mettons-nous en route vers ce chemin où Dieu nous attend, où il nous tend la main et où il nous offre une vie meilleure et abondante, allant même jusqu'à l'éternité. J'aimerais juste terminer en disant que la Bible tout entière est un mot d'amour de Dieu pour nous. C'est un livre qui est un comme Dieu est un. Tous les conseils, tous les mots d'amour, tous les passages, même ceux où il est dit « Attention, ne va pas là, ne fais pas ça », ce sont des mots d'amour d'un père à ses enfants. Au travers de toutes les paraboles, de toutes les histoires, les événements qui se trouvent dans la Bible, nous pouvons apprendre à être vigilants. Nous pouvons réaliser combien nous sommes aimés, car nous avons un guide parfait, le meilleur qui soit. Alors, ne nous privons pas et apprenons à le connaître, suivons-le et vivons de magnifiques relations verticales et horizontales avec tout le monde, selon le plan de Dieu. Amen.